Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, chapitre 2, suite. Parmi les observations recueillies par la science psychique, nous avions jadis noté le fait suivant. Une dame se trouvait à l'étage supérieur d'un hôtel. Voulant descendre, elle s'engagea sur le palier. La barrière destinée à fermer la cage de l'ascenseur était justement ouverte. Cette barrière ne devant s'ouvrir que si l'ascenseur est arrêté à l'étage, elle crut naturellement que l'ascenseur était là et se précipita pour le prendre. Brusquement, elle se sentit rejetée en arrière. L'homme, chargé de manœuvrer l'appareil, venait de se montrer et la repoussait sur le palier. À ce moment, elle sortit de sa distraction. Elle constata, stupéfaite, qu'il n'y avait ni homme ni appareil. Le mécanisme s'étant dérangé, la barrière avait pu s'ouvrir à l'étage où elle était, alors que l'ascenseur était resté en bas. C'est dans le vide qu'elle allait se précipiter. Une hallucination miraculeuse lui avait sauvé la vie. Est-il besoin de dire que le miracle s'explique aisément? La dame avait raisonné juste sur un fait réel, car la barrière était effectivement ouverte et par conséquent, l'ascenseur aurait dû être à l'étage. Seule la perception de la cage vide l'eût tirée de son erreur. Mais cette perception serait arrivée trop tard, l'acte consécutif au raisonnement juste étant déjà commencé. Alors avait surgi la personnalité instinctive, somnambulique, sous-jacente à celle qui résonne. Elle avait aperçu le danger. Il fallait agir tout de suite. Instantanément, elle avait rejeté le corps en arrière, faisant jaillir du même coup la perception fictive, hallucinatoire, qui pouvait le mieux provoquer et expliquer le mouvement en l'apparence injustifié. Imaginons alors une humanité primitive et des sociétés rudimentaires. Pour assurer à ces groupements la cohésion voulue, la nature disposerait d'un moyen bien simple. Elle n'aurait qu'à doter l'homme d'instincts appropriés. Ainsi fit-elle pour la ruche et pour la fourmilière. Son succès fut d'ailleurs complet. Les individus ne vivent ici que pour la communauté. Et son travail fut facile, puisqu'elle n'eut qu'à suivre sa méthode habituelle. L'instinct est en effet coextensif à la vie, et l'instinct social, tel qu'on le trouve chez l'insecte, n'est que l'esprit de subordination et de coordination qui anime les cellules, tissus et organes de tout corps vivant. Mais c'est à un épanouissement de l'intelligence, et non plus à un développement de l'instinct, que tend la poussée vitale dans la série des vertébrés. Quand le terme du mouvement est atteint chez l'homme, l'instinct n'est pas supprimé, mais il est éclipsé. Il ne reste de lui qu'une lueur vague autour du noyau, pleinement éclairé ou plutôt lumineux, qu'est l'intelligence. Désormais, la réflexion permettra à l'individu d'inventer, à la société, de progresser. Mais pour que la société progresse, encore faut-il qu'elle subsiste. Invention signifie initiative, et un appel à l'initiative individuelle risque déjà de compromettre la discipline sociale. Que sera-ce si l'individu détourne sa réflexion de l'objet pour lequel elle est faite? Je veux dire, de la tâche à accomplir, à perfectionner, à rénover, pour la diriger sur la communauté. Livré à l'instinct, comme la fourmi ou l'abeille, il fut resté tendu sur la fin extérieure à atteindre. Il eut travaillé pour l'espèce automatiquement, somnambuliquement. Doté d'intelligence, éveillé à la réflexion, il se tournera vers lui-même et ne pensera qu'à vivre agréablement. Sans doute, un raisonnement en forme lui démontrerait qu'il est de son intérêt de promouvoir le bonheur d'autrui. Mais il faut des siècles de culture pour produire un utilitaire comme Stuart Mill. Et Stuart Mill n'a pas convaincu tous les philosophes, et encore moins le commun des hommes. La vérité est que l'intelligence conseillera d'abord l'égoïsme. C'est de ce côté que l'être intelligent se précipitera si rien ne l'arrête. Mais la nature veille. Tout à l'heure, devant la barrière ouverte, un gardien avait surgi qui interdisait l'entrée et repoussait le contrevenant. Ici, ce sera un dieu protecteur de la cité, lequel défendra, menacera, réprimera. L'intelligence se règle en effet sur des perceptions présentes ou sur ces résidus plus ou moins imagés de perceptions qu'on appelle les souvenirs. Puisque l'instinct n'existe plus qu'à l'état de trace ou de virtualité, puisqu'il n'est pas assez fort pour provoquer des actes pour les empêcher, il devra susciter une perception illusoire, ou tout au moins une contrefaçon de souvenir assez précise, assez frappante, pour que l'intelligence se détermine par elle. Envisagée de ce premier point de vue, la religion est donc une réaction défensive de la nature contre le pouvoir dissolvant de l'intelligence. Mais nous n'obtenons ainsi qu'une figuration stylisée de ce qui se passe effectivement. Pour plus de clarté, nous avons supposé dans la société une brusque révolte de l'individu, et dans l'imagination individuelle, la soudaine apparition d'un dieu qui empêche ou qui défend. Les choses prennent sans doute cette forme dramatique à un moment donné et pour un certain temps, dans une humanité déjà avancée sur la route de la civilisation. Mais la réalité n'évolue vers la précision du drame que par l'intensification de l'essentiel et par l'élimination du surabondant. En fait, dans les groupements humains tels qu'ils ont pu sortir des mains de la nature, la distinction entre ce qui importe et ce qui n'importe pas à la cohésion du groupe n'est pas aussi nette. Les conséquences d'un acte accompli par l'individu ne paraissent pas aussi strictement individuelles. La force d'inhibition qui surgit au moment où l'acte va s'accomplir ne s'incarne pas aussi complètement dans une personne. Arrêtons-nous sur ces trois points. Dans les sociétés telles que les nôtres, il y a des coutumes et il y a des lois. Sans doute, les lois sont souvent des coutumes consolidées. Mais une coutume ne se transforme en loi que lorsqu'elle présente un intérêt défini, reconnu et formulable. Elle tranche dès lors sur les autres. La distinction est donc nette entre l'essentiel et l'accidentel. Il y a d'un côté ce qui est simplement usage, de l'autre ce qui est obligation légale et même morale. Il ne peut pas en être ainsi dans des sociétés moins évoluées qui n'ont que des coutumes, les unes justifiées par un besoin réel, la plupart dues au simple hasard ou à une extension irréfléchie des premières. Ici, tout ce qui est usuel est nécessairement obligatoire, puisque la solidarité sociale n'étant pas condensée dans des lois, l'étant encore moins dans des principes, se diffuse sur la commune acceptation des usages. Tout ce qui est habituel aux membres du groupe, tout ce que la société attend des individus, devra donc prendre un caractère religieux, s'il est vrai que, par l'observation de la coutume, et par elle seulement, l'homme est attaché aux autres hommes et détaché ainsi de lui-même. Soit dit en passant, la question des rapports de la morale avec la religion se simplifie ainsi beaucoup quand on considère les sociétés rudimentaires. Les religions primitives ne peuvent être dites immorales ou indifférentes à la morale que si l'on prend la religion telle qu'elle fut d'abord, pour la comparer à la morale telle qu'elle est devenue plus tard. À l'origine, la coutume est toute la morale. Et comme la religion interdit de s'en écarter, la morale est coextensive à la religion. En vain donc, on nous objecterait que les interdictions religieuses n'ont pas toujours concerné ce qui nous apparaît aujourd'hui comme immoral ou comme antisocial. La religion primitive, vue par le côté que nous envisageons d'abord, est une précaution contre le danger que l'on court dès qu'on pense de ne penser qu'à soi. C'est donc bien une réaction défensive de la nature contre l'intelligence. D'autre part, l'idée de responsabilité individuelle est loin d'être aussi simple qu'on pourrait le croire. Elle implique une représentation relativement abstraite de l'activité de l'individu que l'on tient pour indépendante parce qu'on l'a isolée de l'activité sociale. Mais telle est d'abord la solidarité entre les membres du groupe que tous doivent se sentir participer dans une certaine mesure à la défaillance d'un seul, au moins dans les cas qu'ils tiennent pour graves. Le mal moral, si l'on peut déjà employer ce terme, fait l'effet d'un mal physique qui s'étendrait de proche en proche et affecterait la société entière par contamination. Si donc une puissance vengeresse surgit, ce sera pour frapper la société dans son ensemble, sans s'appesantir uniquement sur le point d'où le mal était parti. Le tableau de la justice poursuivant le coupable est relativement moderne, et nous avons trop simplifié les choses en montrant l'individu arrêté au moment de rompre le lien social par la crainte religieuse d'un châtiment qu'il serait seul à subir. Il n'en est pas moins vrai que les choses tendent à prendre cette forme et qu'elles la prendront de plus en plus explicitement à mesure que la religion, fixant ses propres contours, deviendra plus franchement mythologique. Le mythe portera d'ailleurs toujours la trace de ses origines. Jamais il ne distinguera complètement entre l'ordre physique et l'ordre moral ou social, entre la régularité voulue, qui vient de l'obéissance de tous à une loi, et celle que manifeste le cours de la nature. Thémis, déesse de la justice humaine, est la mère des saisons, Oraille, et de Dike, qui représente aussi bien la loi physique que la loi morale. De cette confusion, nous sommes à peine libérés aujourd'hui. La trace en subsiste dans notre langage. Mœurs et morales, règles au sens de constance et règles au sens d'impératif. L'universalité de fait et l'universalité de droit s'expriment à peu près de la même manière. Le mot « ordre » ne signifie-t-il pas tout à la fois « arrangement » et « commandement » ? Enfin, nous parlions d'un Dieu qui surgirait pour interdire, prévenir ou punir. La force morale d'où part la résistance et au besoin la vengeance s'incarnerait donc dans une personne, qu'elle tente bien ainsi tout naturellement à prendre aux yeux de l'homme une forme humaine, cela n'est pas douteux. Mais si la mythologie est un produit de la nature, c'en est le produit tardif, comme la plante à fleurs et les débuts de la religion ont été plus modestes. Un examen attentif de ce qui se passe dans notre conscience nous montre qu'une résistance intentionnelle et même une vengeance nous apparaissent d'abord comme des entités qui se suffisent. S'entourer d'un corps défini, comme celui d'une divinité vigilante et vengeresse, est déjà pour elle un luxe. La fonction fabulatrice de l'esprit ne s'exerce sans doute avec un plaisir d'art que sur des représentations ainsi vêtues, mais elle ne les forme pas du premier coup, elle les prend d'abord toutes nues. Nous aurons à nous appesantir sur ce point qui n'a pas suffisamment attiré l'attention des psychologues. Il n'est pas démontré que l'enfant qui s'est cogné à une table et qui lui rend le cou reçu d'elle voit en elle une personne. Il s'en faut d'ailleurs que tous les psychologues acceptent aujourd'hui cette interprétation. Mais, après avoir trop concédé ici à l'explication mythologique, ils ne vont pas assez loin maintenant quand ils supposent que l'enfant cède simplement à un besoin de frapper que susciterait la colère. La vérité est qu'entre l'assimilation de la table à une personne et la perception de la table comme chose inerte, il y a une représentation intermédiaire qui n'est ni celle d'une chose ni celle d'une personne. C'est l'image de l'acte qu'accomplit la table en cognant. Ou mieux, l'image de l'acte amenant avec lui, comme un bagage qu'il porterait sur le dos, la table qui est derrière. L'acte de cogner est un élément de personnalité, mais non pas encore une personnalité complète. L'escrimeur, qui voit arriver sur lui la pointe de son adversaire, sait bien que c'est le mouvement de la pointe qui a entraîné l'épée. L'épée qui a tiré avec elle le bras. Le bras qui a allongé le corps en s'allongeant lui-même. On ne se fend comme il faut et l'on ne sait porter un coup droit que du jour où l'on sent ainsi les choses. Les placer dans l'ordre inverse est reconstruire et par conséquent philosopher. En tout cas, c'est expliciter l'implicite au lieu de s'en tenir aux exigences de l'action pure, à ce qui est immédiatement donné et véritablement primitif. Quand nous lisons sur un écriteau « Défense du passé », nous percevons l'interdiction d'abord. Elle est en pleine lumière. Derrière seulement, il y a, dans la pénombre, vaguement imagée, le garde qui dressera le procès-verbal. Ainsi, les interdictions qui protègent l'ordre social sont d'abord lancées en avant telles quelles. Ce sont déjà, il est vrai, plus que de simples formules. Ce sont des résistances, des pressions et des poussées. Mais la divinité qui interdit et qui était masquée par elle n'apparaîtra que plus tard, à mesure que se complétera le travail de la fonction fabulatrice. Ne nous étonnons donc pas de rencontrer chez les non-civilisés des interdictions qui sont des résistances semi-physiques et semi-morales à certains actes individuels. L'objet qui occupe le centre d'un champ de résistance sera dit tout à la fois sacré et dangereux. Quand se seront constituées ces deux notions précises, quand la distinction sera nette entre une force de répulsion physique et une inhibition morale. Jusque-là, il possède les deux propriétés fondues en une seule, il est tabou, pour employer le terme polynésien, que la science des religions nous a rendu familier. L'humanité primitive a-t-elle conçu le tabou de la même manière que les primitifs d'aujourd'hui? Entendons-nous d'abord sur le sens des mots. Il n'y aurait pas d'humanité primitive si les espèces s'étaient formées par transition insensible, à aucun moment précis, l'homme n'aurait émergé de l'animalité. Mais c'est là une hypothèse arbitraire, qui se heurte à tant d'invraisemblances et repose sur de tels équivoques que nous la croyons insoutenable. À suivre le fil conducteur des faits et des analogies, on arrive bien plutôt à une évolution discontinue, qui procède par saut, obtenant à chaque arrêt une combinaison parfaite en son genre, comparable aux figures qui se succèdent quand on tourne un kaléidoscope. Il y a donc bien un type d'humanité primitive, encore que l'espèce humaine ait pu se constituer par plusieurs sauts convergents accomplis de divers points et n'arrivant pas tous aussi près de la réalisation du type. D'autre part, l'âme primitive nous échapperait complètement aujourd'hui s'il y avait eu transmission héréditaire des habitudes acquises. Notre nature morale, prise à l'état brut, différerait alors radicalement de celle de nos plus lointains ancêtres. Mais c'est encore sous l'influence d'idées préconçues et pour satisfaire aux exigences d'une théorie qu'on parle d'habitudes héréditaires et surtout qu'on croit la transmission assez régulière pour opérer une transformation. La vérité est que si la civilisation a profondément modifié l'homme, c'est en accumulant dans le milieu social, comme dans un réservoir, des habitudes et des connaissances que la société verse dans l'individu à chaque génération nouvelle. Grattons les surfaces, effaçons ce qui nous vient d'une éducation de tous les instants. Nous retrouverons au fond de nous, ou peu s'en faut, l'humanité primitive. De cette humanité, les primitifs que nous observons aujourd'hui nous offrent-ils l'image? Ce n'est pas probable, puisque la nature est recouverte, chez eux aussi, d'une couche d'habitude que le milieu social a conservée pour les déposer en chaque individu. Mais il y a lieu de croire que cette couche est moins épaisse que chez l'homme civilisé et qu'elle laisse davantage transparaître la nature. La multiplication des habitudes au cours des siècles a dû en effet s'opérer chez eux d'une manière différente, en surface, par un passage de l'analogue à l'analogue et sous l'influence de circonstances accidentelles. Tandis que le progrès de la technique, des connaissances, de la civilisation, enfin, se fait pendant des périodes assez longues, dans un seul et même sens, en hauteur, par des variations qui se superposent ou s'anastomosent, aboutissant ainsi à des transmissions profondes et non plus seulement à des complications superficielles. Dès lors, on voit dans quelle mesure nous pouvons tenir pour primitive absolument la notion du tabou que nous trouvons chez les primitifs d'aujourd'hui. À supposer qu'elle est parue telle qu'elle dans une humanité sortant des mains de la nature, elle ne s'appliquait pas à toutes les mêmes choses, ni probablement à autant de choses. Chaque tabou devait être une interdiction à laquelle la société trouvait un intérêt défini, irrationnel du point de vue de l'individu, puisqu'il arrêtait net des actes intelligents sans s'adresser à l'intelligence. Il était rationnel en tant qu'avantageux à la société et à l'espèce. C'est ainsi que les relations sexuelles, par exemple, ont pu utilement être réglées par des tabous. Mais justement, parce qu'il n'était pas fait appel à l'intelligence individuelle et qu'il s'agissait même de la contrecarrer, celle-ci, s'emparant de la notion du tabou, a dû en faire toutes sortes d'extensions arbitraires par des associations d'idées accidentelles et sans s'inquiéter de ce qu'on pourrait appeler l'intention originelle de la nature. Ainsi, à supposer que le tabou ait toujours été ce qu'il est aujourd'hui, il ne devait pas concerner un aussi grand nombre d'objets, ni donner des applications aussi déraisonnables. Mais a-t-il conservé sa forme originelle? L'intelligence des primitifs ne diffère pas essentiellement de la nôtre. Elle doit incliner, comme la nôtre, à convertir le dynamique en statique et à solidifier les actions en choses. On peut donc présumer que, sous son influence, les interdictions se sont installées dans les choses auxquelles elles se rapportaient. Ce n'était que des résistances opposées à des tendances. Mais comme la tendance a le plus souvent un objet, c'est de l'objet, comme si elle siégeait en lui, que la résistance a semblé partir, devenant ainsi un attribut de sa substance. Dans les sociétés stagnantes, cette consolidation s'est faite définitivement. Elle a pu être moins complète. Elle était en tout cas temporaire dans des sociétés en mouvement. où l'intelligence finirait par apercevoir derrière l'interdiction une personne. Nous venons d'indiquer la première fonction de la religion, celle qui intéresse directement la conservation sociale. Arrivons à l'autre. C'est pour le bien de la société que nous allons encore la voir travailler, mais indirectement, en stimulant et dirigeant les activités individuelles. Son travail sera d'ailleurs plus compliqué, et nous aurons à en énumérer les formes. Mais dans cette recherche, nous ne risquons pas de nous égarer parce que nous tenons le fil conducteur. Nous devons toujours nous dire que le domaine de la vie est essentiellement celui de l'instinct, que sur une certaine ligne d'évolution, l'instinct a cédé une partie de sa place à l'intelligence, qu'une perturbation de la vie peut s'en suivre et que la nature n'a d'autres ressources alors que d'opposer l'intelligence à l'intelligence. La représentation intellectuelle qui rétablit ainsi l'équilibre au profit de la nature est d'ordre religieux. Commençons par le cas le plus simple. Les animaux ne savent pas qu'ils doivent mourir. Sans doute, il en est parmi eux qui distinguent le mort du vivant. Entendons par là que la perception du mort et celle du vivant ne déterminent pas chez eux les mêmes mouvements, les mêmes actes, les mêmes attitudes. Cela ne veut pas dire qu'ils aient l'idée générale de la mort, non plus d'ailleurs que l'idée générale de la vie, non plus qu'aucune autre idée générale, en tant du moins que représentée à l'esprit et non pas simplement jouée par le corps. Tel animal fera le mort pour échapper à un ennemi, mais c'est nous qui désignons ainsi son attitude. Quant à lui, il ne bouge pas parce qu'il sent qu'en remuant, il attirerait ou ranimerait l'attention, qu'il provoquerait l'agression que le mouvement appelle le mouvement. On a cru trouver des cas de suicide chez les animaux. À supposer qu'on ne se soit pas trompé, la distance est grande entre faire ce qu'il faut pour mourir et savoir qu'on en mourra. Autre chose est accomplir un acte, même bien combiné, même approprié. Autre chose, imaginer l'état qui s'en suivra. Mais admettons même que l'animal ait l'idée de la mort. Il ne se représente certainement pas qu'il est destiné à mourir, qu'il mourra de mort naturelle si ce n'est pas de mort violente. Il faudrait pour cela une série d'observations faites sur d'autres animaux, puis une synthèse. Enfin, un travail de généralisation qui offre déjà un caractère scientifique. À supposer que l'animal pût esquisser un tel effort, ce serait pour quelque chose qui en valut la peine. Or, rien ne lui serait plus inutile que de savoir qu'il doit mourir. Il a plutôt intérêt à l'ignorer. Mais l'homme sait qu'il mourra. Tous les autres vivants, cramponnés à la vie, on adopte simplement l'élan. S'ils ne se pensent pas eux-mêmes sub specie aeterni, leur confiance, perpétuelle empiétement du présent sur l'avenir, est la traduction de cette pensée en sentiment. Mais avec l'homme apparaît la réflexion, et par conséquent, la faculté d'observer sans utilité immédiate, de comparer entre elles des observations provisoirement désintéressées afin d'induire et de généraliser. Constatant que tout ce qui vit autour de lui finit par mourir, il est convaincu qu'il mourra lui-même. La nature, en le dotant d'intelligence, devait bon gré mal gré l'amener à cette conviction. Mais cette conviction vient se mettre en travers du mouvement de la nature. Si l'élan de vie détourne tous les autres vivants de la représentation de la mort, la pensée de la mort doit ralentir chez l'homme le mouvement de la vie. Elle pourra plus tard s'encadrer dans une philosophie qui élèvera l'humanité au-dessus d'elle-même et lui donnera plus de force pour agir. Mais elle est d'abord déprimante, et elle le serait encore davantage si l'homme n'ignorait, certain qu'il est de mourir, la date où il mourra. L'événement a beau devoir se produire, comme on constate chaque instant qu'il ne se produit pas, l'expérience négative, continuellement répétée, se condense en un doute à peine conscient qui atténue les effets de la certitude réfléchie. Il n'en est pas moins vrai que la certitude de mourir, surgissante avec la réflexion dans un monde d'êtres vivants qui était fait pour ne penser qu'à vivre, contrarie l'intention de la nature. Celle-ci va trébucher sur l'obstacle qu'elle se trouve avoir placé sur son propre chemin. Mais elle se redresse aussitôt. À l'idée que la mort est inévitable, elle oppose l'image d'une continuation de la vie après la mort. Cette image, lancée par elle dans le champ de l'intelligence où vient de s'installer l'idée, remet les choses en ordre. La neutralisation de l'idée par l'image manifeste alors l'équilibre même de la nature, se retenant de glisser. Nous nous retrouvons donc devant le jeu tout particulier d'images et d'idées qui nous a paru caractériser la religion à ses origines. Envisagée de ce second point de vue, la religion est une réaction défensive de la nature contre la représentation par l'intelligence de l'inévitabilité de la mort. À cette réaction, la société est intéressée autant que l'individu, non pas seulement parce qu'elle bénéficie de l'effort individuel et parce que cet effort va plus loin quand l'idée d'un terme n'en vient pas contrarier l'élan, mais encore et surtout parce qu'elle a besoin elle-même de stabilité et de durée. Une société déjà civilisée s'adosse à des lois, à des institutions, à des édifices même qui sont faits pour braver le temps. Mais les sociétés primitives sont simplement bâties en hommes. Que deviendrait leur autorité si l'on ne croyait pas à la persistance des individualités qui les composent? Il importe donc que les morts restent présents. Plus tard viendra le culte des ancêtres. Les morts se seront alors rapprochés des dieux. Mais il faudra pour cela qu'il y ait des dieux au moins en préparation, qu'il y ait un culte, que l'esprit se soit franchement orienté dans la direction de la mythologie. À son point de départ, l'intelligence se représente simplement les morts comme mêlés aux vivants dans une société à laquelle ils peuvent encore faire du bien et du mal. Sous quelle forme les voit-elle se survivre? N'oublions pas que nous cherchons au fond de l'âme, par voie d'introspection, les éléments constitutifs d'une religion primitive. Tel de ces éléments a pu ne jamais se produire dehors à l'état pur. Il aura tout de suite rencontré d'autres éléments simples, de même origine, avec lesquels il se sera composé. Ou bien il aura été pris, soit tout seul, soit avec d'autres, pour servir de matière au travail indéfiniment continué de la fonction fabulatrice. Il existe ainsi des thèmes simples ou complexes fournis par la nature, et il y a d'autre part mille variations exécutées sur eux par la fantaisie humaine. Aux thèmes eux-mêmes se rattachent sans doute les croyances fondamentales que la science des religions retrouve à peu près partout. Quant aux variations sur les thèmes, ce sont les mythes et même les conceptions théoriques qui se diversifient à l'infini selon les temps et les lieux. Il n'est pas douteux que le thème simple que nous venons d'indiquer se compose tout de suite avec d'autres pour donner avant les mythes et les théories la représentation primitive de l'âme. Mais a-t-il une forme définie en dehors de cette combinaison? Si la question se pose, c'est parce que notre idée d'une âme survivant au corps recouvre aujourd'hui l'image, présentée à la conscience immédiate, d'un corps pouvant se survivre à lui-même. Cette image n'en existe pas moins, et il suffit d'un léger effort pour la ressaisir. C'est tout simplement l'image visuelle du corps dégagée de l'image tactile. Nous avons pris l'habitude de considérer la première comme inséparable de la seconde, comme un reflet ou un effet. Dans cette direction, s'est effectué le progrès de la connaissance. Pour notre science, le corps est essentiellement ce qu'il est pour le toucher. Il a une forme et une dimension déterminée, indépendante de nous. Il occupe une certaine place dans l'espace et ne saurait en changer sans prendre le temps d'occuper une à une les positions intermédiaires. L'image visuelle que nous en avons serait alors une apparence dont il faudrait toujours corriger les variations en revenant à l'image tactile. Celle-ci serait la chose même et l'autre ne ferait que la signaler. Mais telle n'est pas l'impression immédiate. Un esprit non prévenu mettra l'image visuelle et l'image tactile au même rang, leur attribuera la même réalité et les tiendra pour relativement indépendantes l'une de l'autre. Le primitif n'a qu'à se pencher sur un étang pour y apercevoir son corps tel qu'on le voit, dégagé du corps que l'on touche. Sans doute, le corps qu'il touche est également un corps qu'il voit. Cela prouve que la pellicule superficielle du corps, laquelle constitue le corps vu, est susceptible de se dédoubler et que l'un des deux exemplaires reste avec le corps tactile. Il n'en est pas moins vrai qu'il y a un corps détachable de celui qu'on touche, corps sans intérieur, sans pesanteur, qui s'est transporté instantanément au point où il est. Que ce corps subsiste après la mort, il n'y a rien en lui, sans doute, qui nous invite à le croire. Mais si nous commençons par poser en principe que quelque chose doit subsister, ce sera évidemment ce corps et non pas l'autre, car le corps qu'on touche est encore présent, il reste immobile et ne tarde pas à se corrompre, tandis que la pellicule visible a pu se réfugier n'importe où et demeurer vivante. L'idée que l'homme se survit à l'état d'ombre ou de fantôme est donc toute naturelle. Elle a dû précéder, croyons-nous, l'idée plus raffinée d'un principe qui animerait le corps comme un souffle. Ce souffle, anémos, s'est lui-même peu à peu spiritualisé en âme, anima ou animus. Il est vrai que le fantôme du corps paraît incapable par lui-même d'exercer une pression sur les événements humains, et qu'il faut pourtant qu'il l'exerce, puisque c'est l'exigence d'une action continuée qui a fait croire à la survie. Mais ici, un nouvel élément intervient. Nous ne définirons pas encore cette autre tendance élémentaire. Elle est aussi naturelle que les deux précédentes. C'est également une réaction défensive de la nature. Nous aurons à en rechercher l'origine. Pour le moment, nous n'en considérerons que le résultat. Elle aboutit à la représentation d'une force répandue dans l'ensemble de la nature et se partageant entre les objets et les êtres individuels. Cette représentation, la science des religions la tient généralement pour primitive. On nous parle du mana polynésien, dont l'analogue se retrouve ailleurs sous des noms divers. Wakanda des Sioux, Orna des Iroquois, Pantang des Malais, etc. Selon les uns, le mana serait un principe universel de vie et constituerait en particulier, pour parler notre langage, la substance des âmes. Selon d'autres, ce serait plutôt une force qui qui viendrait par surcroît et que l'âme, comme d'ailleurs toute autre chose, pourrait capter, mais qui n'appartiendrait pas à l'âme essentiellement. Durkheim, qui semble raisonner dans la première hypothèse, veut que le mana fournisse le principe totémique par lequel communieraient les membres du clan. L'âme serait une individualisation directe du totem et participerait du mana par cet intermédiaire. Il ne nous appartient pas de choisir entre les diverses interprétations. D'une manière générale, nous hésitons à considérer comme primitive, nous voulons dire comme naturelle, une représentation que nous ne formerions pas aujourd'hui encore naturellement. Nous estimons que ce qui fut primitif n'a pas cessé de l'être, bien qu'un effort d'approfondissement interne puisse être nécessaire pour le retrouver. Mais, sous quelque forme qu'on prenne la représentation dont il s'agit, nous ne ferons aucune difficulté pour admettre que l'idée d'une provision de force où puiseraient les êtres vivants, et même bon nombre d'objets inanimés, est une des premières que l'esprit rencontre sur son chemin quand il suit une certaine tendance, celle-là naturelle et élémentaire, que nous définirons un peu plus loin. Tenons donc cette notion pour acquise. Voilà l'homme, pourvu de ce qu'il appellera plus tard une âme. Cette âme survivra-t-elle au corps? Il n'y aurait aucune raison de le supposer si l'on s'en tenait à elle. Rien ne dit qu'une puissance telle que le mana doive durer plus longtemps que l'objet qui la recèle. Mais si l'on a commencé par poser en principe que l'ombre du corps demeure, rien n'empêchera d'y laisser le principe qui imprimait au corps la force d'agir. On obtiendra une ombre active, agissante, capable d'influer sur les événements humains. Telle serait la conception primitive de la survie. L'influence exercée ne serait d'ailleurs pas grande si l'idée d'âme ne venait rejoindre l'idée d'esprit. Celle-ci dérive d'une autre tendance naturelle que nous aurons aussi à déterminer. Prenons-la aussi pour accordée et constatons qu'entre les deux notions vont se pratiquer des échanges. Les esprits que l'on suppose partout présents dans la nature ne se rapprocheraient pas tant de la forme humaine si l'on ne se représentait déjà ainsi les âmes. De leur côté, les âmes détachées des corps seraient sans influence sur les phénomènes naturels si elles n'étaient pas du même genre que les esprits et plus ou moins capables de prendre place parmi eux. Les morts vont alors devenir des personnages avec lesquels il faut compter. Ils peuvent nuire, ils peuvent rendre service, ils disposent jusqu'à un certain point de ce que nous appelons les forces de la nature. Au propre et au figuré, ils font la pluie et le beau temps. On s'abstiendra de ce qui les irriterait, on s'efforcera de capter leur confiance. On imaginera mille moyens de les gagner, de les acheter, voire de les tromper. Une fois engagé dans cette voie, il n'est guère d'absurdité où ne puisse tomber l'intelligence. La fonction fabulatrice travaille déjà assez bien par elle-même. Que sera-ce si elle est aiguillonnée par la crainte et par le besoin? Pour écarter un danger ou pour obtenir une faveur, on offrira aux morts tout ce que l'on croit qu'il désire. On ira jusqu'à couper des têtes si cela peut lui être agréable. Les récits des missionnaires sont pleins de détails à ce sujet. Puérilité, monstruosité, la liste est interminable des pratiques inventées ici par la stupidité humaine. À ne voir qu'elle, on serait tenté de prendre l'humanité en dégoût. Mais il ne faut pas oublier que les primitifs, d'aujourd'hui ou d'hier, ayant vécu autant de siècles que nous, ont eu tout le temps d'exagérer et comme d'exaspérer ce qu'il pouvait y avoir d'irrationnel dans des tendances élémentaires assez naturel. Les vrais primitifs étaient sans doute plus sensés s'ils s'en tenaient à la tendance et à ses effets immédiats. Tout change, et comme nous le disions plus haut, le changement se fera en surface s'il n'est pas possible en profondeur. Il y a des sociétés qui progressent, probablement celles que des conditions d'existence défavorables ont obligées à un certain effort pour vivre, et qui ont alors consenti, de loin en loin, à accentuer leur effort pour suivre un initiateur, un inventeur, un homme supérieur. Le changement est ici un accroissement d'intensité. La direction en est relativement constante. On marche à une efficacité de plus en plus haute. Il y a d'autre part des sociétés qui conservent leur niveau nécessairement assez bas. Comme elles changent tout de même, il se produit en elles non plus une intensification, qui serait un progrès qualitatif, mais une multiplication ou une exagération du primitivement donné. L'invention, si l'on peut encore employer ce mot, n'exige plus l'effort. D'une croyance qui répondait à un besoin, on aura passé à une croyance nouvelle qui ressemble extérieurement à la précédente, qui en accentue tel caractère superficiel, mais qui ne sert plus à rien. Dès lors, piétinant sur place, on ajoute et l'on amplifie sans cesse. Par le double effet de la répétition et de l'exagération, l'irrationnel devient de l'absurde et l'étrange du monstrueux. Ces extensions successives ont d'ailleurs dû être accomplies, elles aussi, par des individus. Mais plus n'était besoin ici de supériorité intellectuelle pour inventer, ni pour accepter l'invention. La logique de l'absurde suffisait. Cette logique qui conduit l'esprit de plus en plus loin à des conséquences de plus en plus extravagantes quand il part d'une idée étrange sans la rattacher à des origines qui en expliqueraient l'étrangeté et qui en empêcheraient la prolifération. Nous avons tous eu l'occasion de rencontrer quelqu'une de ces familles très unies, très satisfaites d'elles-mêmes, qui se tiennent à l'écart par timidité ou par dédain. Il n'est pas rare qu'on observe chez elles certaines habitudes bizarres, phobies ou superstitions, qui pourraient devenir graves si elles continuaient à fermenter en vase clos. Chacune de ces singularités a son origine. C'est une idée qui sera venue à tel ou tel membre de la famille et que les autres auront acceptée de confiance. C'est une promenade qu'on aura faite un dimanche, qu'on aura recommencé le dimanche suivant, et qui s'est imposée alors pour tous les dimanches de l'année. Si par malheur on y manquait une fois, on ne sait pas ce qui pourrait arriver. Pour répéter, pour imiter, pour se fier, il suffit de se laisser aller. C'est la critique qui exige un effort. Donnez-vous alors quelques centaines de siècles au lieu de quelques années. Grossissez énormément les petites excentricités d'une famille qui s'isole. Vous vous représenterez sans peine ce qui a dû se passer dans des sociétés primitives qui sont restées closes et satisfaites de leur sort, au lieu de s'ouvrir des fenêtres sur le dehors, de chasser les miasmes au fur et à mesure qu'ils se formaient dans leur atmosphère, et de faire un effort constant pour élargir leur horizon.